Content de vous voir ce matin. Amen. Et pour moi, c'est la fin des vacances qui s'est signalée aujourd'hui. Je retourne au bureau demain matin. On a eu du bon temps. On s'est promené un peu dans le nord du Nouveau-Brunswick. On était à Petit Rocher, où est-ce que les grands-parents de Nathalie sont pour une semaine. À Campbellton aussi pour une semaine, où sont les parents de Nathalie. Et puis, on a passé une semaine ici à Edmundston aussi. Et ça a été bien, ça a été reposant. Et puis, voilà, tout de suite après la réunion, on va faire ça vite. Et puis, on part pour Montréal et puis on va dormir là ce soir. Et puis, ça fait du bien de vous voir. Et puis, j'ai prêché ici 2 semaines passées. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'étaient pas là, je suis natif d'ici, d'Edmundston. J'ai grandi dans cette église ici. Et puis, maintenant, je suis le doyen académique de l'Institut biblique du Québec, qui est notre école de formation pour les pasteurs, pour les leaders dans nos églises. Et puis, il y a toujours des gens qui me demandent c'est quoi un doyen académique. Essentiellement, c'est un autre mot pour dire directeur. Et puis, voilà. Et si jamais que Dieu dépose sur votre cœur de suivre une formation, peut-être que vous sentez un appel dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas sûr que vous ressentez un appel, ou peut-être que vous voulez juste suivre une formation pour vous enrichir personnellement, je vous invite vraiment de vous informer auprès de moi après la réunion. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Il y a déjà des gens ici qui ont étudié ou qui étudient à l'EBQ et qui pourront justement vous témoigner de ce que ces formations-là ont fait pour leur vie. Voilà. Amen. Seigneur, je te prie pour cette prédication ce matin. Je te prie qu'elle puisse vraiment nous nourrir, qu'elle puisse vraiment nous parler, qu'elle puisse nous ouvrir les yeux. Et puis que, voilà, Seigneur, je te prie que tu puisses me donner les bonnes paroles afin que tu puisses être glorifié. Et c'est dans ton nom précieux que j'ai prié, Père. Amen. 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 Donc, j'ai vu dans vos annonces et que vous allez bientôt faire une réunion d'évangélisation, une session d'évangélisation à la fin du mois. Et puis, je veux vraiment vous féliciter pour ça. Et puis, justement, le nom de ma prédication ce matin, c'est ce mot qui commence par « e ». Ce mot qui commence par « e ». Et puis, voilà, donc en référence ici au mot « évangélisation », on n'ose pas trop le dire, le mot. Pourquoi? Ben, premièrement, c'est un mot qui fait un petit peu peur, hein? Donc voilà, évangélisation, on a toujours peur en fait, qu'est-ce qui va être la réaction des gens, on a toujours peur, voilà, on a toujours peur d'être incompétent, il y a une peur qui est rattachée à ça. Ah, puis l'autre raison aussi pourquoi c'est un mot qui commence par « e », c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose de mystérieux aussi hein, dans l'évangélisation. On se pose la question, mais c'est quoi réellement l'évangélisation aussi, mais surtout comment on fait ça? Comment on fait ça aujourd'hui dans notre société, dans notre contexte actuel? Et puis donc, ce matin, je vous propose vraiment de regarder dans le livre des Actes des apôtres pour regarder à toute cette question d'évangélisation. Hein, tout d'abord, le mot d'évangélisation hein, vient du mot évangile, hein, évangélisation, hein, et qui dans le grec, qui signifie bonne nouvelle. Donc, l'évangélisation, c'est quoi? C'est de proclamer la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, hein, nous l'avons dit ce matin lors de la communion, c'est que Jésus est venu sur cette terre, Jésus est mort pour prendre notre péché à notre place, pour enlever toute séparation qui peut nous séparer de Dieu, pour que nous puissions être en bonne relation avec Dieu, que nous puissions connaître Dieu personnellement. Amen. Et puis, vous savez, dans le livre des Actes, hein, nous appelle justement à l'évangélisation. Et une des choses que Jésus a faites avant d'être enlevé dans les cieux, c'est qu'il a vraiment posé les fondations pour l'évangélisation. Il a établi les bases de l'Église qui va naître dans Actes chapitre 2. Et puis, il va dire dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes... » Ça ne dit pas « mes saints », ça ne dit pas « vous serez mes... » Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit à son Église hein, que leur mission allait être d'évangéliser, de rendre témoignage. Leur mission, ça n'allait pas être de persévérer, de tienne fort. Leur mission, c'est d'évangéliser. En fait, lorsqu'on regarde Matthieu chapitre 28, on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'une bonne chose à faire, d'une bonne pratique, mais qu'il s'agit d'un commandement. Ça dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Il ne dit pas « Vous savez, ce serait une bonne chose pour vous, en fait, si de temps en temps… » Non, ça dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Et je pense que là-dedans, il y a une dimension qui est personnelle, mais une dimension qui est aussi collective. Parce que vous voyez, Jésus il dit aux disciples, dans Actes 1-8, il dit « Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins ». Et puis là, on arrive dans Actes 2 par la suite, et puis là, le Saint-Esprit descend sur les gens, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une langue individuel qui apparaît sur chacun des disciples. Une langue, la langue, c'est l'organe de la parole. Donc, ça signifiait que le Saint-Esprit était descendu sur chacun des disciples pour leur donner une puissance pour témoigner. Ça s'est réalisé. Mais chacune des personnes avait reçu une langue individuelle. Et chacun de nous a une responsabilité individuelle d'évangéliser, n'est-ce pas? On peut pas juste dire, bon, l'Église organise un événement d'évangélisation. Voilà, c'est fait, je fais partie de cette Église-là, justement. Non, chacun de nous a reçu une responsabilité individuelle. Il y a une puissance individuelle pour évangéliser les nations. Mais c'est aussi quelque chose que nous faisons de façon collective. C'est un appel collectif aussi. Dieu nous appelle aussi, non simplement individuellement d'aller évangéliser, mais de le faire ensemble en tant qu'Église. Et vous vous souvenez comment Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle du corps et comment dans le corps que chacun des membres a une fonction spécifique qui se complète l'un et l'autre. Et lorsque nous mettons ensemble pour faire l'évangélisation, nous pouvons faire des événements de grande ampleur avec chacun de nous qui contribue d'une façon ou d'un autre. Dieu nous appelle à faire de l'évangélisation collectivement. Et le tout, bien sûr, se fait par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et ça dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. On ne peut pas faire l'évangélisation par nous-mêmes. Moi, je ne suis pas capable de convertir une personne. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc les personnes et qui les apporte justement à la repentance. Tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est ça l'évangélisation essentiellement. Mais la grande question qu'on se pose ce matin, OK, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait ça en 2022? Comment on fait ça en 2022? Et c'est ça le défi. Et la première chose qu'il faut admettre, c'est que nos méthodes doivent changer. On a souvent entendu le dicton, le message ne change pas, mais la méthode doit constamment changer. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui change. Et la façon de transmettre l'Évangile doit changer. Et on voit ça à plusieurs endroits dans les Écritures. On voit dans Actes chapitre 2 comment Pierre s'adresse à une foule de Juifs. Et puis Pierre parle leur langage. Il va se référer à l'Ancien Testament. Il va raconter les... Pourquoi? Parce que ça collait avec les Juifs. Ils connaissaient ces histoires-là. Et là, plus tard, on voit comment, dans Actes chapitre 18, que Paul est à Athènes, qui était le lieu de la philosophie grecque. Et puis là, Paul va utiliser une stratégie qui est complètement différente. Il va parler leur langage à eux, afin que ça colle avec eux. Paul s'adaptait au contexte. Et puis, il le dit clairement dans 1 Corinthiens 9, verset 19, qu'avec les Juifs, il était comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Et lorsqu'il était avec les païens, il était comme les païens. Il parlait leur langage pour qu'eux puissent comprendre. De même, notre proclamation de l'Évangile se fait dans un contexte précis. Nous prêchons la bonne nouvelle ici, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, dans une communauté majoritairement francophone. On n'est pas en Californie ici, là. On ne peut pas faire des choses en Californie comme ils le font en Californie. On n'est pas en Afrique, on n'est pas en Amérique du Sud. Nous sommes au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et nous proclamons la bonne nouvelle. Et le contexte local a beaucoup changé dans les 40 dernières années, tout comme dans le reste de l'Amérique du Nord. Notre société est en train de se séculariser très rapidement. En d'autres mots, les gens croient de moins en moins en Dieu. Il y a un livre qui s'appelle « The Rise of the Nuns », N-O-N-E-S, de James Emery White, que j'ai fait la lecture et j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre-là. Et j'ai quelques statistiques ici. Hein. Et ça, c'est des statistiques qui ont été prises dans les États-Unis pour démontrer la sécularisation. Je pense que dans le monde francophone, là, si on peut multiplier ça, là, on est rendu beaucoup plus loin là, que les États-Unis quand ça vient à la sécularisation. Et selon ces statistiques, en 1940, est-ce qu'on peut afficher les statistiques, s'il vous plaît? En 1940, il y avait 5% de la population qui n'avait aucune identité religieuse. En 1990, c'est 8%. En 2008, c'est 15%. En 2012, c'est 19%. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est en 2022. Vous voyez comment, à quel point il y a beaucoup de personnes qui ont, ils vont dire, j'ai aucune confession religieuse. Et on voit ce phénomène-là aussi. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? On peut voir ce phénomène-là qui s'accroît lorsqu'on compare aussi les générations. Hein? Est-ce qu'on peut avancer d'un autre, s'il vous plaît? Donc, on peut voir que les personnes âgées, il y a 5% des Américains qui vont dire hein, qu'il n'y a aucune confession religieuse. Les baby boomers, c'est 15%. La génération X, c'est 21%. Et les millénaires, 34%. Donc, on voit en fait que la société, le contexte est en train de changer très rapidement. Et de plus en plus, les gens, les jeunes aujourd'hui, hein, les boomers avaient quand même grandi dans un contexte catholique, pratiquant. Vos enfants n'ont jamais été à la messe. Les gens aujourd'hui n'ont même plus de connaissances bibliques. À l'intérieur d'une génération, les gens n'ont plus de connaissances bibliques et ils ont une perception négative de la foi chrétienne. Les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose, ils ne sont pas à la recherche d'une église. Okay? Ils ne cherchent pas pour une église. Et puis en plus de ça, là, les questions spirituelles, ça ne les préoccupe pas beaucoup. Ça ne les préoccupe pratiquement pas. Ils ne se lèvent pas le matin et disent « Qu'est-ce qu'il en est de Dieu? Qu'est-ce qu'il en est de Jésus? » Ce n'est pas vraiment quelque chose qui les préoccupe. Et juste pour illustrer ça, hein, si on avait une flèche ici, si on avait à placer l'ouverture des gens par rapport à l'Évangile, OK? Si on avait à les mettre sur un continuum, sur une flèche comme ça, on peut dire que 30 ans passés, ici, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, OK? La plupart des gens, ils étaient à peu près à un 7. Hein? Quand même, à quelque part, ils avaient grandi dans un contexte catholique, donc ils connaissaient quand même Jésus, ils avaient quand même une appréciation pour Jésus, même si peut-être ils n'aimaient pas l'institution. Il y avait une appréciation qui était là pour Jésus, il y avait une connaissance qui était là. Hein? Et puis, lorsqu'on leur prêchait Jésus, il y avait une ouverture qui était là. Et puis, ça a été caractérisé par des grands réveils. Hein? Les années 70, 80, dans les églises pentecôtistes, ont beaucoup grandi. Les gens étaient hein, quand même plus proches du 7 de façon générale. Et ça se reflète aussi dans d'autres pays. Hein? Là, moi, j'ai été en Afrique, les gens... C'était des 7, c'était des 8. Il y avait déjà une très grande ouverture à l'Évangile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Hein? Aujourd'hui, si on avait à placer les gens sur un cheminement spirituel, c'est un 0, un 1, 2. Des fois, tu peux être chanceux d'en taper un 3. Mais le niveau d'ouverture, beaucoup, maintenant, il y a des exceptions. Hein? Il y a des exceptions, il y a des gens qui sont des 7. Mais majoritairement, les gens n'ont pas cette même ouverture. La société a beaucoup changé. Mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est de notre méthode? Est-ce qu'on évangélise encore les gens comme s'ils sont des 7? Alors que les gens ne sont plus des 7. Vous savez, j'ai pris un café avec... lorsque j'étais à Moncton, j'ai pris... il y a un moment donné, il y a un pasteur qui est passé. Et son nom, c'est Dennis Blackmore. Et puis, vous connaissez, c'est lui qui a commencé l'Église ici, dans les années 70. Ah, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, hey, c'est à cause de toi que je suis ici, moi, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand tu as passé, puis il était vraiment étonné de ça. Puis il dit, hey, on va aller prendre un café ensemble. On a été prendre un café, j'avais l'impression d'être devant un héros comme ça. J'ai envoyé un message. J'ai dit, Denis, tu viens prendre un café. J'ai dit, je veux tout que tu me racontes. Fait qu'on a passé un an, une bonne heure comme ça à parler, puis j'étais juste là, puis je l'écoutais, puis je posais des questions. Je dis, non, je veux que tu m'en dises plus. Puis il m'a tout raconté comment l'œuvre de Dieu a commencé ici, dans la région d'Edmundston. Et vous savez, c'était une période de réveil, pas juste ici, c'était partout. Et puis, il racontait comment, en fait, dans la région, ils sont allés, ils avaient loué la salle de l'école, là, et puis ils ont passé des invitations comme ça dans les boîtes à lettres et tout ça. Et puis, ils ont fait venir un évangéliste, puis Peter Youngren. Et puis, comme ça, la première soirée, 1000 personnes! Wow! 1000 personnes, des guérisons, des saluts. Et finalement, ils ont continué pendant une semaine comme ça. Les gens se convertissaient à gauche et à droite. C'était le réveil. Et ça s'était parlé partout, hein, dans les maritimes et tout ça. Et puis, voilà. Donc, moi, à Moncton, moi, je me dis, c'est super ça. Et justement, il y avait quelque chose qui se passait. Je dis, on va envoyer des invitations, nous autres aussi, aux gens. On va faire un événement. On a loué une salle dans une chambre d'hôtel. On a envoyé, attention, 17 000 invitations. 17 000 qu'on a envoyé aux gens. On a fait un événement. Je pense qu'on a peut-être eu 3, 4 ou 5 nouveaux qui sont venus cette journée-là. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Autrefois, les gens étaient des sept. Et donc, il y avait une certaine appréciation, une certaine ouverture qui était là. Ils étaient réceptifs à aller à un événement de présentation de l'Évangile. Aujourd'hui, les gens sont des zéros, des un, des deux, des trois. Et majoritairement, ils ne sont pas vraiment intéressés à aller à un événement, une soirée, une présentation de l'Évangile. C'est comme, en fait, essayer de vendre une maison à un étudiant, un marteau piqueur à un pasteur. C'est comme essayer à quelque part de vendre une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire. Le contexte a changé. Vous savez, pendant des années, j'ai résisté de m'acheter un téléphone cellulaire. Et puis, tout le monde avait des téléphones cellulaires. Moi, j'étais, j'ai pas besoin de ça. J'avais mon petit calepin. J'écrivais dans mon petit calepin. Et puis, j'ai résisté comme ça. Et puis, je recevais des circulaires par la poste qui faisait la promotion des téléphones cellulaires. Et puis, ça ne m'intéressait pas. Ça allait directement dans la poubelle. Pourquoi je n'étais pas intéressé à m'acheter un téléphone cellulaire? Tu aurais pu m'envoyer toutes les publicités du monde. OK? J'en voulais pas. Et tu aurais pu m'emporter à un événement où ils vendaient des téléphones cellulaires. J'y aurais pas été. Il aurait pu avoir un magasin où ils vendaient. J'aurais pas été. Pourquoi? Parce que je n'étais pas intéressé de m'acheter un téléphone cellulaire. Mais avec le temps, des gens ont commencé à me parler. Ils disaient, hey, David, tu sais, ce serait beaucoup plus efficace si tu utilisais un agenda électronique. Tu sais, tu devrais vraiment, tu peux te mettre des rappels, puis tranquillement, OK, je sais pas. Mais tranquillement, j'ai commencé à cheminer. Tranquillement, j'ai commencé à m'ouvrir à l'idée. J'ai commencé à faire des recherches sur les téléphones cellulaires, sur des applications, qu'est-ce que ça fait, vas-tu vraiment sauver du temps? Et finalement, j'ai fini par en acheter un. Et les gens, aujourd'hui, ont besoin de cheminer avant même qu'ils deviennent intéressés. Les gens ont besoin de cheminer. Les gens sont des un, des deux, des trois. Avant même qu'ils deviennent des sept, ils ont besoin de devenir des quatre ou des cinq. Ils ont peut-être besoin de devenir un six avant qu'ils deviennent un sept. On doit réellement commencer à penser à l'évangélisation beaucoup plus en termes d'un processus, d'un cheminement, au lieu d'un événement là où ça se passe tout d'un coup comme ça. Un cheminement. 1 Corinthiens 3, 16. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. L'agriculture nous enseigne concernant le processus de maturation d'une graine qui devient une plante. Et je crois qu'on doit, dans notre contexte, devenir conscient du cheminement spirituel de la personne. Et pour qu'une personne chemine, écoutez bien ceci, pour qu'une personne chemine du 2 au 3, du 3 au 4 et du 4 au 5, les gens ont besoin que les croyants aillent vers eux pour cheminer avec eux. Répétez ça avec moi. Aller vers eux pour cheminer avec eux. Peut-être que ta mission, cette fois-ci, c'est d'apporter la personne de Dieu à toi. Peut-être c'est juste ça. Puis peut-être l'année prochaine, ça va être d'apporter la personne du 3 jusqu'au 4. C'est un cheminement. Mais il faut être allé vers eux et cheminer avec eux. Est-ce qu'on est prêt à aller vers les gens? Vous savez, autrefois, on avait une méthode attractionnelle. Venez! Mais Dieu, maintenant, je pense qu'il nous appelle à avoir une approche incarnationnelle. Jésus est venu dans notre monde. Il est venu vers nous. Il est entré dans notre bulle terrestre. Il s'est identifié à nous pour nous pointer et cheminer avec nous vers le Père. Il ne nous a pas appelés des cieux. Jésus ne s'est pas mis dans le ciel. OK, venez-vous-en là, tu sais. Jésus est venu dans notre monde. Et je crois que plus que jamais, Dieu nous appelle à cheminer avec les gens. Sommes-nous prêts à aller vers les gens pour cheminer avec eux? Sommes-nous prêts à entrer dans leur vie et de travailler avec eux à long terme? Sommes-nous prêts à s'armer de patience? Cheminer avec une personne, ça signifie une relation. Une relation. Cheminer veut dire relation authentique et durable. Ça commence en allant vers les gens d'abord pour initier une relation. Ça peut signifier de sortir de chez nous pour rencontrer des nouvelles personnes, de former des nouvelles amitiés. Ça peut signifier d'approfondir des relations avec des gens qui sont déjà là dans notre entourage, que nous avons déjà des relations avec eux, mais d'approfondir ces relations-là. On vit dans une société individuelle. Et si vous attendez que les gens viennent à vous pour développer des relations, vous n'aurez jamais de relations. Vous devez aller vers les gens pour développer des relations avec les gens. Alors, comment on chemine avec les gens, au juste? Comment on fait ça? On va parler un peu des bonnes actions, des bonnes œuvres. Quand on pense d'évangélisation, hein, on pense dans les Actes des Apôtres aux disciples qui allaient de lieu en lieu. Et puis en fait, ah, oui, ils prêchaient la bonne nouvelle, ils parlaient, mais ils faisaient plus que juste parler aussi. Hein, ils faisaient des bonnes actions. Et puis ils allaient de lieu en lieu, ils faisaient des guérisons, hein, ils faisaient des miracles. Il faisait des bonnes œuvres, il faisait la distribution de la nourriture pour les veuves. Jésus lui-même aussi, il ne faisait pas juste proclamer la bonne nouvelle. Hein, il nourrissait les foules, il restaurait les gens qui sont marginalisés. Jésus faisait du bien dans son entourage. Il faisait des bonnes œuvres. Jacques 1, 27, ça dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Matthieu 5, 17, ça dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La Bible est claire que si on veut être efficace dans l'œuvre de Dieu, nous devons, chacun de nous, faire des bonnes actions. Pourquoi? Et surtout dans un contexte séculier comme le Canada français. C'est que les œuvres nous permettent d'ouvrir tranquillement le cœur des gens. Lorsque je fais une bonne œuvre, lorsque je rends visite à mon voisin qui est hospitalisé, j'apporte cette personne-là d'un 2 à un 3. Lorsque je vais aider une personne à construire son cabanon, j'aide, ça paraît peut-être pas, mais je suis en train de faire cheminer cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit. Et non seulement il y a une relation de confiance qui s'établit, mais la personne commence à te voir sous un nouveau regard. Qu'est-ce qui est différent avec cette personne-là? Pourquoi cette personne-là m'aime? Wow, cette personne-là est remplie d'amour. Je fais confiance à cette personne-là. Et tranquillement, la personne commence à voir, mais qu'est-ce? Parle-moi de ton Dieu. Il y a un cheminement qui se fait lorsqu'il y a des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres montrent aux gens que nous sommes différents et qu'on vaut en vaille la peine d'être écouté. Est-ce que tu vaux la peine d'être écouté? Ça les rend tranquillement plus réceptifs. Ça me fait penser, Nathalie, à un moment donné, elle faisait des pains aux bananes, puis elle apportait ça aux personnes autour d'elle. Des peintures. Combien de fois que Nathalie a fait des peintures, elle donnait ça à des gens, et tout à coup, c'est comme s'ils devenaient des meilleurs amis. Pourquoi? Parce que Nathalie avait donné le plus beau cadeau qu'elle pouvait donner à une personne. Et puis là, tout à coup, il y a une relation de confiance qui était là. Et Nathalie méritait maintenant d'être écoutée. Ensuite, après les bonnes actions, viennent des paroles. Et si on veut réellement évangéliser les gens, il faut parler aussi. Si les paroles ne sont jamais utilisées, les chances, c'est que les gens ne viendront jamais à la connaissance de la connaissance de l'Évangile. Ça prend une exposition claire de l'Évangile pour qu'une personne puisse comprendre. On le voit dans Actes chapitre 2, où Pierre se lève et puis il livre tout un discours, il présente l'Évangile, et puis là, ça dit que 3000 personnes se sont converties. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des paroles, il y a eu un discours qui s'est fait. Proverbe 25, 11, ça dit, « Comme des pommes d'or sur des cellules d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Il n'y a rien comme une parole dite au bon moment. Lorsque la personne, lorsqu'on a cheminé avec la personne et on l'a fait tranquillement grandir d'un 2, d'un 3, d'un 3, d'un 4, d'un 4, et puis à un moment donné, le temps est là et on dépose une parole. Une parole qui a un pouvoir, une parole qui est à propos, dans un cœur qui a été préparé d'avance. Non pas une parole prématurée, une parole qui va juste faire repousser la personne parce que la personne n'est pas rendue là, mais une parole à propos, dans un cœur qui a été préparé. L'idée est d'y aller selon la réceptivité de la personne, de déposer lorsque la terre est prête. Il y a des gens qui voudront juste qu'on les bénisse par nos actions pour le moment. Et si c'est le cas, on s'arrête là. Il y a d'autres personnes qui vont être prêtes à entendre une parole. Et ça demande du discernement pour savoir c'est quand le bon moment. Mais il faut être courageux. Parce qu'à un moment donné aussi, on ne peut pas juste demeurer dans les bonnes œuvres. On ne peut pas diluer non plus. On ne peut pas passer à côté de la traque. Je pense que Dieu, hein, ça nous dit dans Éphésiens 2:8 que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous d'avance. Et Dieu prépare. Il y a des occasions et il ne faut pas les manquer. Il vient des temps où il faut déposer une parole. Peut-être que c'est cette partie qui te fait peur. Tu es bon à faire des bonnes œuvres, mais déposer une parole, tu as peur de ça. Mais la réalité de Dieu, la réalité, ça dit... Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et la réalité des choses, c'est si tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit peut déposer les paroles dans ta bouche. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu lui-même va te montrer quoi dire. Il va te donner la force si seulement tu es prêt à dépendre sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire finalement de cheminer avec les personnes? Ça veut aussi dire de tendre une invitation. Il vient un moment donné aussi où il faut inviter les gens, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est utile, un événement comme vous faites à la fin du mois, parce qu'il y a peut-être des gens, ça fait des années que vous investissez dans leur vie. Hein? Vous leur parlez, vous avez cette relation, vous avez déposé des paroles à propos ici et là. À un moment donné, il faut une occasion où ces gens vont rencontrer le corps de Christ. Une occasion où il va avoir une exposition encore plus claire de l'Évangile pour que ces personnes-là peuvent être intégrés au corps du Seigneur. Et puis, à un moment donné, il vient où on doit faire une invitation. Mais c'est tough. C'est tough. On a peur d'être rejeté, n'est-ce pas? On a peur de la réaction des gens. Et ça me rappelle cette histoire de deux diacres. Je ne sais pas s'il y a des diacres ici, là. Un qui s'appelait Arnold et puis Lee. Hein? Puis ils sont allés faire du porte-à-porte pour inviter les gens à l'église. Et puis, ils sont arrivés devant une vieille dame grincheuse et ça s'est mal passé. Et puis, la madame a dit, « Allez-vous-en de chez nous. » Et puis, allez, elle a fermé la porte comme ça. Et puis là, la porte rebondit. Oh, la madame n'était pas contente. Elle Elle dit, comment t'oses mettre ton pied dans la porte comme ça? Je veux fermer ma porte. Fait qu'elle y va, passer lance encore plus fort. Bang! Comme ça. La porte, bring! Elle rebondit encore. Ah, elle a dit, là, elle dit, je la manque là-bas. Prends la porte, elle la pousse comme ça. Bring! Puis là, à un moment donné, Lydia qui dit, madame, il dit, vous faites ce que vous voulez, là, mais moi, je vous conseille, là, la prochaine fois que vous faites ça, là, de peut-être enlever votre chat là, du cadre de porte, là. On a peur d'être rejeté, n'est-ce pas? On a peur que ça ne fonctionne pas. On a peur de se faire clencher à la porte du nez. Mais vous savez, une chose que les recherches démontrent, c'est que si on a bien préparé les cœurs, une relation qui est établie, 80% des gens vont être ouverts à recevoir une invitation. Et donc, il y a un temps pour tendre une invitation. Et ce n'est pas compliqué. On peut prier. Et moi, je remercie le Seigneur que vous faites des réunions de prière. Vous pouvez, mais on peut prier tant qu'on veut. Okay? Mais en quelque part, il faut faire une invitation. Je ne parle pas d'un morceau de papier dans la poste. C'est super, on n'a pas besoin d'arrêter de faire ces choses-là. Mais à la fin de la journée, ça prend une invitation personnelle. Et la prochaine étape, bien sûr, c'est l'accueil et le suivi. Et puis, quand Dieu envoie des nouvelles personnes parmi nous, c'est important de démontrer un bel accueil. Et c'est tellement facile. Des fois, en tant que chrétien, on devient tellement confortable ensemble qu'on oublie, en fait, que l'Église, ce n'est pas juste pour les chrétiens. Allez par toutes les nations. En fait, moi, je crois que l'objectif final de l'Église, c'est d'évangéliser. L'Église... Et tout est avant tout pour rejoindre les gens de l'extérieur. Alors ne faisons pas l'Église comme si c'est pour nous. Gardons les yeux vers les gens que Dieu peut nous envoyer. Faisons le suivi. Les gens, aujourd'hui, il y a tellement de tentations, tellement facile de déraper. Et ce n'est pas juste au pasteur de faire le suivi. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous avez 30 ans d'expérience. Je pense que vous avez beaucoup à donner, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de conseils à donner. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer. Mais je ne sais pas à propos de vous, mais moi, un matin, j'ai le goût de pêcher. Alors, je vais m'installer ici. J'ai apporté ma canne à pêche. Et puis, je me suis tout préparé là, pour venir pêcher ce matin. Et je me suis trouvé le spot parfait. Je vais m'installer. Et ouais, je pense que je vais m'installer ici devant l'église pour pêcher. J'aime ça. J'ai de la bonne compagnie. La bonne musique. L'air climatisé. Pas de mouche, c'est l'endroit parfait. J'ai juste à apprendre comment utiliser ça. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? En plus, les poissons, là, ils n'ont pas d'excuses. Là. Poissons, venez ici. C'est très clair. Donc, juste à ouvrir les portes. Là. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Les poissons, ils vont-tu venir? Vas-tu être une bonne pêche? Ça fera des vents. Qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on est des pêcheurs assis? Est-ce que c'est nous, frère et soeur? Est-ce que, à quelque part, on s'attend à ce que les gens viennent à nous? Ou est-ce qu'on est prêt à aller vers les gens? Jésus dit, allez! Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire d'aller, ça veut dire qu'à quelque part, qu'il faut aller vers les poissons. Ça veut dire qu'à quelque part, il faut aller vers les gens. Ça veut dire que dans notre société, les gens ne vont pas juste apparaître de nulle part parce qu'on a organisé un bon événement. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore intéressés. Mais si on va vers eux, si on commence à semer dans leur vie, on les fait grandir, peut-être qu'ils vont devenir intéressés. Dieu touche encore des cœurs aujourd'hui. Il faut construire une relation. Il faut cheminer avec eux par des actes d'amour. Et éventuellement, leur tendre une invitation. Peut-être des gens dans votre vie, ça fait déjà des années que vous investissez. C'est le temps-là de les inviter. Peut-être qu'il n'y a pas des gens dans votre vie, vous avez une relation, il reste encore un mois, un voisin. De commencer à semer dans sa vie, de commencer à bâtir une relation, afin que quand ça va venir, que cette invitation-là va tomber sur un terrain qui a été préparé, un terrain qui est fertile. L'évangélisation à la fin du mois d'août, ça, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Et le résultat dépend de ce qu'on fait maintenant. La prière est nécessaire, mais la prière nous pousse à l'action. Alors, qu'est-ce qui sont les semences que tu as mises ces derniers mois, ces dernières années, que Dieu t'appelle à mettre? Je vais vous inviter à vous lever. Peut-être que tu peux juste jouer un peu de la guitare. Et puis,